Jacqueline Baillet, vous avez été longtemps maire au foyer, vous avez été maire adjoint de la ville de Toulouse et vous vous êtes lancée avec passion et conviction dans la vie du père Marie-Antoine de Lavaur, qu'on appelle le saint de Toulouse. Comment est-ce que cette personnalité fameuse s'est manifestée à vous ?
Je crois que c'est le mot juste, s'est manifestée, je ne le connaissais pas. Et un jour, je suis passée dans la chapelle du couvent qu'il a fondé. Il avait 32 ans et pas un sou vaillant en poche. Et il est enterré dans ce couvent. En y entrant, ce n'était pas la première fois et je voyais bien son portrait, son tombeau sur la gauche dans la chapelle de Saint-Antoine de Padoue, mais je n'y faisais pas grand cas. Et là, c'était un moment quand même assez particulier. Nous venions d'avoir, quelques jours avant, la fameuse catastrophe d'AZF.
Et qui a fait centaines de morts.
Qui a fait 32 morts, mais qui a détruit le quart des équipements de la ville. Ça a été quand même quelque chose d'énorme. Et tous les élus, nous étions sans cesse sur le terrain. Et
Vous étiez à ce moment-là maire adjoint
de Toulouse. Et nous entendions sans cesse des gens qui n'étaient pas spécialement croyants, qui disaient oh, mais c'est un vrai miracle, on a eu beaucoup de chance. Pourquoi la cloche a sonné 5 minutes avant et toute l'école était en récréation, elle n'aurait pas dû l'être. Pourquoi un tel, enfin, chacun avait sa petite histoire tout au long de la semaine pour dire que c'était merveilleux de s'en être si bien sorti. Et donc j'étais dans cette chapelle et tout à coup le saint de Toulouse, pour moi qui était donc adjointe au maire de la ville, qui était une élue de la ville, ça fait tilt et j'ai sans plus réfléchir, je me suis approchée de ce père Marie-Antoine, ce grande barbe, et je lui ai dit merci. Et ça a été le commencement d'une histoire d'amour, en quelque sorte.
D'une grande rencontre.
En tout cas, d'une grande rencontre.
Et alors là, vous êtes lancée, vous y êtes dit, qui est cet homme ?
Voilà.
Et
il a fallu encore que la Providence me mette dans une vitrine d'un brocanteur, un livre ancien, parce qu'on a beaucoup publié à sa mort. Et donc, un livre ancien sur lui, un gros livre que j'ai donc acheté. Et là, réellement, j'ai lu et je me suis dit, mais c'est incroyable, mais c'est un géant. Et on n'en parle pas, tout le monde l'a oublié. Certes, moi je suis rapatriée d'Algérie, j'ai de bonnes excuses, mais je n'en ai pas beaucoup entendu parler à Toulouse et ailleurs. C'est quand même étonnant. Et donc, j'ai recherché des gens qui puissent écrire sur lui, dépoussiérer un peu tout ce qui avait été fait.
Quand vous dites c'est un géant, pourquoi vous dites c'est un géant ? Qu'est-ce qui fait que c'est un géant ?
C'est un géant parce que tout est surnaturel finalement, c'est-à-dire surdimensionné, avec un niveau de spiritualité surdimensionné. Ses charismes, je mettrai beaucoup de temps à citer l'ensemble de ses charismes. D'abord, il était grand à l'époque, 1m80 passé, une voix qui portait, il n'y avait pas de micro pour se faire entendre de 2000 personnes, avec des prédications un peu en cri, où les gens répétaient, etc. Vous voyez, ça savait faire vivre les choses. Il a fait des missions par centaines, il en a fait plus de 700. Il a écrit plus de 80 bouquins, et étant très connu par tout ce qu'il avait fait à Lourdes, puisqu'il a connu Bernadette, qu'il l'a défendu tout de suite.
On dit de lui d'ailleurs qu'il ne faisait pas de miracle, mais qu'il aidait la Vierge Marie à en faire.
À en faire. Parce qu'il suffisait quelquefois de faire un Ave Maria agenouillé auprès d'un malade sur un fauteuil, pour ensuite lever un bandeau et dire « la Sainte Vierge vous a guéri ». Et puis parce qu'il faisait prier. Il avait une telle foi que cette foi, elle passait dans les cœurs des autres. C'était vraiment extraordinaire.
Et une foi très enracinée aussi dans le milieu dans lequel il était. Il était très ancré dans le milieu politique, dans le milieu culturel.
Il était très curieux. Il considérait que puisqu'il avait une grande popularité, ses livres se publiaient à 500 000 exemplaires. C'était pour lui un devoir de participer, de faire entendre le son de l'Église, de la foi et de Dieu.
Il dit une phrase qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, « Quel prix faudra-t-il que tu paies, toi, homme moderne, pour apprendre à tes dépens où est le bon choix entre Dieu et le vide de Dieu, entre Dieu et ce qui le remplace inéluctablement Dieu, ces idoles que sont le pouvoir, l'argent, le sexe, combien plus exigeante ?» Une phrase qu'on pourrait dire aujourd'hui.
Aujourd'hui. Et alors il a ajouté, « Et alors elle sera belle, ta liberté à ce moment-là. »
Et ça, c'est un de vos combats, la liberté.
La vraie liberté qui amène au bonheur, parce que la vraie liberté qui fait les bons choix, qui sont finalement les choix simples, des choix de la ligne droite.
Et c'est ça qui vous a amené à vous pencher avec avidité sur cette vie?
J'ai pensé qu'il était spécialement utile aujourd'hui, parce qu'il sait parler aux gens, il sait être didactique, pédagogue, bonhomme, simple, et en même temps aller très loin dans les profondeurs ou en élevant aussi les âmes jusqu'à Dieu. C'est une merveille comme il est astucieux pour arriver justement dans ces profondeurs ou dans cette élévation avec des mots très simples. Je pense que ce langage-là, on en a bien besoin.
Et vous, Jacqueline Baillet, dans votre vie, le père Antoine-Marie, comment est-ce qu'il a changé des choses?
Il a précisé des choses, il a accéléré mon cheminement. Mais ce cheminement avait commencé avant lui. Et si vous voulez, le père Marie-Antoine n'est pas le but de ma vie. Sa béatification avance bien. Si je le vois, merci mon Dieu. Si je ne le vois pas, ça n'a pas d'importance. J'ai rencontré, après 40 ans de désert, de superficialité, mais qui maintenant que je suis convertie, maintenant que je sais ce que c'est la foi, je me rends compte que c'est parfaitement un désert. Il fallait faire les communions de ses enfants, aller pour Pâques de temps en temps. Enfin, c'était des mondanités avec Dieu qui n'ont rien à voir avec la foi. Et donc, à la suite d'un drame familial très dur, donc j'ai eu une foi très forte et très rapide, dans des gestes oubliés, très rapide dans des lectures, très rapide dans la parole de Dieu. J'avais une espèce d'avidité devant la parole de Dieu. En 3 ou 4 ans, j'ai eu une transformation radicale, j'ai eu cette chance d'une transformation radicale intérieure. Je crois que j'ai eu un cœur tout neuf pour aimer de l'amour de Dieu. Parce que dès l'instant qu'on se confie à Dieu, qu'on lui fait confiance, et une confiance de plus en plus forte, on lui confie tout, on lui demande, même dans les petits détails de la vie. Alors ça peut paraître aujourd'hui complètement ridicule. Et pourtant, si on le fait, et on le fait tout simplement, j'allais dire instinctivement tout d'un coup, c'est ça la merveille, c'est ça la grâce. Alors à ce moment-là, effectivement, le Seigneur s'occupe de vous dans ces moindres détails. Alors bon, apparemment, il me demande de m'occuper du père Marie-Antoine, ça paraît évident. Donc je le fais joyeusement et dans cet amour qu'il me donne et que j'essaie donc d'apporter de mon mieux aux autres, à ma famille d'abord et puis à tous ceux qui m'entourent.
Et j'imagine que dans le monde politique dans lequel vous avez gravité, votre conversion, votre retournement a dû poser quelques questions?
J'avais tendance quand même un petit peu à être au conseil municipal celle qui ouvrait facilement sa porte. Donc après, ça a été plus dans la qualité, c'est plus qualitatif, la façon d'écouter. Et Dieu sait que je sais mal écouter. Je parle trop et je sais mal écouter. Je crois qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'égalité, ce qui est complètement ridicule. On est inégaux. Le Créateur a fait une nature où il n'y a pas deux choses pareilles, il n'y a pas deux fleurs pareilles. Donc l'égalité, c'est complètement idiot. C'est la beauté dans la diversité. Et c'est ça le cadeau du Seigneur. Et c'est nous, dans l'amour, à entraîner à une unité. Et cette unité, cet amour, cette égalité, on la trouve dans le regard qu'on porte aux autres. Et ce sont ces choses-là qui sont de bon sens.
Quand vous regardez votre vie, vous avez un long parcours, comment vous le regardez à la lumière de votre retournement, de votre conversion?
J'oublie un petit peu. Il me semble qu'il y a eu des personnes différentes. D'abord, celle qui a vécu jusqu'à 26 ans et qui a eu ses 3 enfants. En Algérie, dans le sud, c'était déjà une toute autre vie avec la guerre. Et donc celle-ci, il ne me semble pas que c'est moi tout à fait, bien que je ne rejette rien, bien entendu, de mon histoire et de mes racines. Après, il y a eu toute cette vie active, politique, se battre, travailler, aider mon mari agriculteur à y arriver, s'intéresser, se passionner sur beaucoup de choses. En plus, j'étais à la fois femme politique et j'étais journaliste. C'est-à-dire, la journaliste a cette chance d'être au départ des choses. J'étais une privilégiée dans ce sens-là, c'était passionnant. Mais aujourd'hui, tout ça me paraît vraiment tellement secondaire que je suis contente de l'avoir fait, hein, je ne regrette rien. Mais je trouve ma vie de paix, d'avoir des possibilités d'apporter des choses aux autres toutes simples, des choses de bon sens, des choses de Dieu. Mais c'est un très beau cadeau de fin de vie.
Quand vous regardez devant, quel est justement votre axe?
Bon, a priori, je ne pense plus écrire, alors que j'aime bien écrire. Puis ça arrive comme ça, des idées qui vous dépassent, qui vous surpassent. C'est une merveille d'écrire. Je pense que je vais me contenter maintenant de publier, puisque l'association que j'anime pour le père Marie-Antoine a créé une maison d'édition justement pour publier ses œuvres majeures. Donc publier ses œuvres du Père Marie-Antoine, elles me paraissent plus importantes que ce que je pourrais écrire moi-même. Voilà, mais vous savez, on voit les choses, on voit son avenir d'une certaine façon, puis quelquefois, ça se fait autrement.
C'est tout à fait autre chose.
Bon, à la grâce de Dieu.